Avoir raison avec John Rawls. Alors, on l'a dit beaucoup au cours des épisodes précédents, la publication de l'œuvre maîtresse de Rawls, Théorie de la justice, a eu un énorme retentissement dès sa publication en 1971. Ce traité d'une lecture difficile parce que d'un haut degré d'abstraction passe pour demeurer jusqu'à aujourd'hui l'ouvrage de philosophie le plus commenté du XXe siècle. En outre, comme l'a souligné à ce micro Rima Hawi hier, Rawls a tenu à répondre à ses critiques. Il considérait en effet son œuvre comme ouverte, un « work in progress ». Sa pensée, tout en restant fidèle à des lignes directrices longuement méditées, acceptait d'évoluer pour répondre aux critiques et aux objections qui lui étaient faites, comme pour intégrer les événements nouveaux. Car même si Rawls se gardait de commenter l'actualité en direct, il fut bien sûr un spectateur attentif, sinon engagé, de la vie politique de son temps. La deuxième édition de sa Théorie de la justice, parue en 1999, comporte ainsi nombre d'éclaircissements et de rectifications. Et en 2001, il a publié en outre une reformulation de sa Théorie de la justice. Certaines carrières intellectuelles aujourd'hui prestigieuses sont nées d'une entreprise de réfutation de John Rawls. C'est en particulier le cas de Michael Sandel, communautarien et philosophe vedette de Harvard. Son livre « Le libéralisme et les limites de la justice » constituait une réponse à « Théorie de la justice » de Rawls. Mais c'est également vrai du libertarien Robert Nozick, qui s'est fait connaître par son livre « Anarchie, État et Utopie », là encore écrit en partie pour contrer Rawls, dont il était le collègue au département de philosophie de Harvard. Quant à la philosophie d'Amartya Sen, elle est directement branchée sur la prise de Rawls. Pour lui, la croissance des ressources est inapte à améliorer les chances des individus s'ils ne sont pas équipés des capacités de les utiliser à leur profit. Mais le concept d'empowerment, mise en capacité de faire quelque chose, était déjà présent chez Rawls. On pourrait aussi citer les sphères de justice de Michael Walzer, qui constituent une manière de poursuivre l'œuvre de Rawls en la contestant en partie. C'est pourquoi l'étude des objections opposées aux thèses de John Rawls est aussi intéressante que les idées de Rawls elles-mêmes.
Does anybody hear me at all back there? Okay. So I hope those are self-explanatory and we'll be able to follow. At any rate, I will explain it as we go along how it's supposed to go.
France Culture, avoir raison avec John Rawls. Brice Couturier.
Alors aujourd'hui, nos invités, je vous les présente. Céline Spector, vous êtes professeure de philosophie à Sorbonne Université. Vous êtes connue comme une spécialiste de la pensée du 18e, en particulier pour vos travaux sur Montesquieu et sur Rousseau, mais vous avez aussi beaucoup écrit sur Rawls. Et vous êtes l'une des coéditrices d'un ouvrage récemment paru qui s'appelle « Le sens de la justice, une utopie réaliste ». Rawls et ses critiques en étant plein dedans. Jean-Jacques Serfati, vous êtes également avec nous. Vous êtes un ancien avocat et vous êtes reconverti en professeur de philosophie, spécialiste de la philosophie du droit. Vous êtes un spécialiste de la pensée libertarienne également et vous avez écrit votre tout dernier ouvrage, s'appelle « Connaissance et savoir, le droit, un espace pour l'un et pour l'autre ». Alors je commence avec une question pour vous, Céline Spector. J'ai dit tout à l'heure que la pensée de Rawls avait évolué au fil du temps. Dans son livre « John Rawls, itinéraire d'un libéral américain vers l'égalité sociale », Rima Hawi, qui était donc notre invitée hier, montre que Rawls serait devenu de plus en plus hostile à ce qu'il appelle le capitalisme d'État et se serait rapproché d'un socialisme libéral. À votre avis, est-ce que Rawls est fidèle à ses lignes directrices ou est-ce qu'on peut estimer qu'il a bougé sous l'influence de ses critiques ?
Alors je pense que Rawls était très réceptif aux critiques qui lui ont été faites, mais en même temps il a toujours eu le souci de défendre ses principes et de s'en tenir, disons, à sa méthode. Et sur un point qui nous intéressera sans doute aujourd'hui, il y a un élément sur lequel il a évolué de manière évidente, c'est la question de savoir si la théorie de la justice était réellement universelle, universalisable. Et de ce point de vue, il s'en est tenu dans la seconde partie, disons, de sa carrière intellectuelle. intellectuelle à l'idée selon laquelle la théorie de la justice avait vocation à s'appliquer plutôt aux démocraties libérales, disons plutôt aux démocraties libérales qu'aux États, par exemple, autoritaires et hiérarchiques. Et de ce point de vue, on peut dire qu'il y a une forme de retrait. Le libéralisme n'est pas nécessairement universaliste, du moins il n'a pas vocation à exporter ses principes de manière universelle. Il a plutôt l'intention de s'appliquer à des sociétés qui sont en un sens prédisposées à accepter les principes libéraux en raison de leur culture politique démocratique. Et il y a une autre évolution importante qui tient à l'idée selon laquelle, disons, Rawls a beaucoup insisté dans la deuxième partie de sa carrière sur le pluralisme raisonnable et sur l'idée que les principes de justice pouvaient faire l'objet d'un consensus par recoupement. C'est-à-dire que, quelle que soit notre conception de la vie bonne, quelle que soit notre position religieuse, métaphysique ou morale, nous pouvons nous rallier au principe de justice sur la base d'un choix rationnel. Et cette idée est fondamentale car pour Rawls, en réalité, les principes de justice doivent faire l'objet d'une adhésion forte. Et la stabilité de la théorie de la justice, la stabilité de la société juste est fondamentale. Donc de ce point de vue, Rawls insiste beaucoup sur le fait que dans une société bien ordonnée, il ne s'agit pas de rendre les hommes heureux ou vertueux, mais de les faire adhérer tous de manière rationnelle aux principes de justice qui sont en réalité raisonnables. Et de ce point de vue, il y a une évolution de Rawls qui, dans les, disons, la deuxième phase de son existence intellectuelle, insiste plus sur cette restriction aux démocraties libérales.
Mais vous ne croyez pas à un deuxième Rawls. On a deux façons de présenter l'itinéraire intellectuel de Rawls. On peut dire que soit il est passé d'une théorie de la justice à des théories plus directement politiques, qu'il est passé, disons, du social vers le politique en évoluant, en continuant sur sa tracé, et d'autres pensent qu'il y a un deuxième Rawls qui serait, disons, allez, je vais dire le mot, plus à gauche que le premier, pour répondre oui, un peu aux critiques qui lui auraient été faites.
Oui, alors bon, je sais pas si on peut résumer les choses de cette façon. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un échange que je trouve, moi, passionnant de Rawls avec un philosophe qui est encore très actif aujourd'hui, Philippe Van Parijs, qui date de 1998, si je ne me trompe pas, et qui est donc un échange privé, une correspondance privée sur la question de l'Union européenne. Et Rawls défend la thèse selon laquelle l'Union européenne ne peut ni ne doit devenir une fédération, car en réalité, il n'y a pas ici de peuple commun, dit Rawls, et en particulier si l'Union européenne continue à se fédérer, elle risquerait de n'être rien d'autre qu'un grand marché et donc donner prise aux multinationales, aux banques, aux intérêts capitalistes dominants. Et on a là dans cet échange privé avec Van Parijs, qui lui est beaucoup plus fédéraliste et qui pense que la fédération européenne peut avoir une dimension sociale évidente, on a dans cet échange avec Van Parijs l'idée que Rawls est vraiment férocement anticapitaliste. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très marquant. Il s'oppose de manière radicale à l'idée d'un marché unique, d'une société consumériste. Donc, moi, pour ma part, j'ai été surprise de la teneur de ces échanges.
Alors, je le disais, les deux principaux adversaires, enfin contributeurs du dialogue avec Rawls, c'est Michael Sandel et c'est Robert Nozick. Je précise pour les auditeurs que ça intéresse de près que Alain Boyer, qui était notre premier invité dans cette série d'émissions sur John Rawls, dans son apologie de John Rawls, consacre un chapitre aux critiques de Nozick et qu'il défend Rawls férocement, et un autre aux critiques de Sandel qu'il défend également Rawls. Donc, si vous voulez avoir le fin mot de cette histoire, et si vous voulez vous y passionner, vous aurez tout dans le livre de Alain Boyer qui s'appelle « Apologie de John Rawls ». Mais je voudrais donner la parole à Jean-Jacques Sarfati parce que vous avez sur le site Wikipédia, Wikibéral, vous avez consacré un très intéressant article à la critique de Nozick, Robert Nozick, donc, qui fait des atouts. Alors, la critique libertarienne de Nozick, que Nozick fait de Rawls. Alors, il faut savoir aussi qu'ils étaient collègues dans le même département de philosophie à Harvard et que les rencontres qu'ils pouvaient faire entre eux dans les couloirs devaient être assez véhémentes parce que le texte de Nozick est très très dur contre Rawls. Pourquoi ? Parce que Rawls, dit Nozick, fait des atouts naturels des individus, leurs dons, leurs talents, leurs compétences acquises, ce qu'il appelle des biens premiers naturels pour les distinguer des biens premiers sociaux. Les biens premiers sociaux, c'est les ressources social. Puisque, dit Rawls, c'est dans l'échange social que ces atouts eux-mêmes des individus sont mis en valeur. Et que donc, quelque part, nos atouts personnels et même la manière dont nous les mettons en œuvre par notre capacité de travail, notre volonté de réussite, notre acharnement, même ça, ça ne nous appartient pas. Ce sont même les talents innés, parce qu'il faut le jeu, il faut les compenser. Tout est socialisé, donc quelque part, et c'est pour un libéral comme Nozzi quelque chose d'insupportable, la personne n'est plus propriétaire d'elle-même.
Oui, alors juste un mot simplement par rapport à ce que vous avez indiqué. La pensée de Rawls elle-même s'insinue dans une discussion entre les libéraux. Je crois que c'était hier, vous avez évoqué la question du libéralisme. Finalement, Rawls est un libéral au sens spinoziste du terme, c'est-à-dire que le libéral, c'est celui qui considère que l'État est là pour libérer les individus et non pas pour les opprimer. Et donc Rawls se situe dans cette logique. Et il faut savoir que lorsque la théorie de la justice surgit, eh bien, il y a une crise au sein du libéralisme lui-même, puisque le libéralisme considérait que la libération de l'individu devait s'effectuer par le truchement du droit et de la justice. Et là, il y avait une crise importante, puisque, en quelque sorte, le droit avait été attaqué, d'une part par le positivisme keynésien, qui considérait que la notion de droit était trop relative pour pouvoir être prise en considération, et d'autre part par le grand texte de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, où elle s'était rendue compte qu'en fait, eh bien, la solution finale avait été mise en place par le truchement du droit. Et on s'était rendu compte que le droit et la justice étaient non pas des instruments de libération, mais des instruments d'oppression. Donc la grande vertu de Rawls, c'est qu'il intervient, d'ailleurs je pense qu'il avait dû entendre ces éminents enseignants, qui étaient eux-mêmes d'ailleurs exilés aux États-Unis, il avait dû les entendre, et sa théorie de la justice vient justement pour recentrer le débat au sein des libéraux, et pour associer à nouveau droit-justice et libéralisme. Et donc Rawls n'est pas non plus critique au sens, au sens péjoratif du terme, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire qui renvoie au mot grec krisis, qui veut dire évaluer, juger, hein, c'est-à-dire que donc lui-même intervient dans il nous rappelle que la notion de justice, comme vous l'avez indiqué, j'étais ancien avocat, et la notion de justice ne peut pas s'envisager sans un débat, sans une discussion, sans un échange serein. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit toute l'importance pour nos problématiques contemporaines de cette, et merci d'ailleurs de consacrer cette émission à Rawls, parce que on voit qu'aujourd'hui il n'y a plus du tout de débat autour de la notion de justice. Et là, à cette époque, il y a un vrai débat entre ces personnes. C'était des professeurs, c'était des chercheurs, et ils s'écoutaient les uns les autres. Ils faisaient hospitalité les uns les autres à leurs arguments. Et ils se répondaient chacun en écoutant leurs arguments. Donc c'est vrai que, disons que Rawls et Nozick, par exemple, et je parlerai peut-être aussi de Walzer tout à l'heure, Rawls, Nozick et Walzer se lisaient mutuellement, ils s'écoutaient, ils s'entendaient.
Au cœur du sujet, quand Nozick dit, j'avoue que dans un texte que vous avez consacré de votre côté, Céline Spector, à cette affaire, il n'y a pas de doute, je vais citer les textes de Rawls que vous citez vous-même, Céline Spector, les talents, le plus talentueux d'une société doivent, la formule est plus précise, les plus talentueux d'une société doivent accepter de faire de la distribution des dons un atout commun, comme un asset, et n'en profiter eux-mêmes que dans la mesure où ils en font également profiter in fine les plus défavorisés de la société. Donc, la distribution des talents devient réellement, il faut qu'elle devienne réellement à l'avantage de chacun. La valeur d'une personne ne donne pas en par elle-même aucun droit. Il faut, alors je cite Rawls, ce à quoi ils ont droit n'est pas proportionnel à ni dépendant à leur valeur intrinsèque. Pour un libéral comme Nozick, ou sans doute comme pour vous, Jean-Jacques Serfati, c'est une idée difficile à admettre, parce que les talents et que l'exploitation des talents par les personnes ne leur appartiennent pas, mais qu'elles soient socialisées quelque part, est une idée qui n'est pas très libérale. Vous venez de nous dire que John Rawls s'inscrit dans le libéralisme, Nozick lui répond non, pas du tout.
Alors, Nozick ne se considère pas comme libéral, il se considère comme libertarien. C'est encore une nuance, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qui les oppose tous les deux, c'est que, en quelque sorte, c'est la conception de l'État. Nozick a une conception de l'État restreinte. Hein. D'ailleurs, il le dit dans son texte, il n'est pas anarchiste non plus. Il est pour un État. Il est pour un État qui libère les individus, comme Rawls. Et en ce sens, ils ont des points communs. Simplement, Rawls, en quelque sorte, comme l'a dit, je crois, Catherine Audard hier, s'inscrit dans la tradition sociale libérale, social-démocrate, c'est-à-dire en gros, il est pour un État qui effectue une redistribution, tandis que Nozick s'y oppose. Il considère d'ailleurs, de manière un peu, je dirais, en plaisantant quelque part, il considère même que la position rawlsienne est anti-kantienne. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, dans la thèse kantienne, l'individu doit être une fin et non pas un moyen. Et Nozick dit, eh bien, écoutez, si certaines personnes qui ont un talent, par exemple, il prend l'exemple d'un basketteur qui est Will Chamberlain, et il dit Will Chamberlain, par exemple, c'est quelqu'un qui a un talent, comme aujourd'hui, par exemple, d'un grand joueur de football. Et donc, il a un talent. Ce talent, il n'est dû qu'à lui-même, et il n'y a pas de raison que, gagnant des sommes considérables à l'issue de ce travail qu'il a effectué, eh bien, en quelque sorte, il travaille, son travail soit mis au service d'autres personnes. Voilà, donc si vous voulez, en fait, Nozick lui dit, ben, quelque part, il devient un moyen pour ces personnes. Donc, je dirais qu'ils sont libéraux dans un sens où tous les deux considèrent que l'État est là pour libérer l'individu. Simplement, l'un considère que pour libérer l'individu, il faut tenir compte des opprimés, et les aider et effectuer une redistribution, tandis que l'autre, qui à mon avis d'ailleurs représente un petit peu l'état d'esprit des dirigeants économiques à ce moment et même maintenant aujourd'hui peut-être, eh bien ils considèrent que non, ils considèrent que ces talents ne sont dus qu'à eux-mêmes. Et d'ailleurs justement la remarque que les Rawlsiens feront à Nozick diront bah c'est pas tout à fait vrai parce que eh bien le talent de Will Chamberlain il n'aurait pas pu s'exprimer sans les écoles, sans les universités, sans les clubs de sport, etc., qui existent et qui sont eux-mêmes le produit de cet État-providence. Oui. Donc, il y avait un vrai échange entre eux, mais là où ils étaient libéraux, c'est qu'encore une fois, ils s'opposent à ceux qui existent dans la tradition philosophie politique, qui considèrent que l'État n'est pas là pour libérer l'individu, mais qu'il est là pour l'opprimer.
Alors, Céline Spector, vous avez consacré un article précisément dans la revue Esprit qui s'appelle « Liberté, égalité, fraternité, la théorie rawlsienne de la justice » à cette polémique entre Nozick et Rawls. Et vous avez, vous, l'air de pencher plutôt vers Rawls. Pouvez-vous nous expliquer le fond de l'affaire ? Je vois bien que l'idée que l'exploitation des talents est une exploitation sociale, parce que si nous sommes très bons pour la peinture et que nous sommes tout seuls sur une île déserte, mon Dieu, nous n'allons pas en tirer grand-chose, ne serait-ce que sur le profit de profit matériel. Donc on comprend bien que l'exploitation des profits, l'exploitation des talents est une affaire sociale. Mais l'idée que jusqu'à la capacité de travail, l'acharnement à la réussite devrait être socialisé, c'est une idée qui, disons, est un peu contre-intuitive.
Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a quelque chose de très contre-intuitif et d'assez radical hein, dans la théorie rawlsienne qui tient notamment à sa conception du mérite. Nous vivons, nous, dans une méritocratie républicaine et nous sommes accoutumés à l'idée selon laquelle les meilleurs, hein, les plus méritants doivent en effet obtenir les meilleures places, les meilleures opportunités au sein de la société. Nous avons aussi entendu la critique de Bourdieu et nous l'avons souvent jugée pertinente, hein, c'est-à-dire que nous ne sommes pas toujours responsables de notre mérite ou, selon une formule un peu amusante, hein, nous ne méritons pas toujours notre mérite. Hein, c'est-à-dire qu'en réalité, le mérite que nous avons, la capacité que nous avons de développer nos talents, le goût de l'effort lui-même, l'aptitude que nous avons d'exploiter nos dons, tient à des facteurs qui sont des facteurs familiaux et sociaux, à ce que Rawls nomme la loterie. La loterie naturelle et sociale. En fait, il y a un certain nombre de contingences qui décident de la vie des individus. Ces contingences sont à la fois leur talent naturel et en même temps le milieu social au sein desquels ces talents peuvent se développer ou non. Et de ce point de vue, Rawls est très conscient que cette double contingence affecte le destin de chacun et qu'il s'agit dans une société juste de la neutraliser. Et donc, en un sens, il faut, selon une belle formule hein, qu'on a employée récemment, abolir le hasard, c'est-à-dire finalement abolir toutes ces contingences qui peuvent semer la discorde et entretenir une concurrence déloyale entre les individus. Il faut, en quelque sorte, rétablir une juste égalité des chances. Et de ce point de vue, Rawls, en effet, est très radical, car il considère que puisque nous ne méritons pas notre mérite, il faut également que les effets de nos talents soient socialisés, comme vous l'indiquiez. C'est-à-dire qu'il faut mutualiser les atouts que sont nos talents au sein de la société. Et de ce point de vue, cela signifie qu'en effet, nous ne sommes pas propriétaires des fruits de nos efforts. Et de ce point de vue, les libertariens résistent beaucoup à cette théorie, puisque très intuitivement, nous sommes propriétaires de nous-mêmes. C'est une idée qu'on fait remonter généralement à Locke, et Nozick s'appuie aussi bien sur Locke que sur une certaine interprétation de Kant. Il insiste sur le fait que nous sommes propriétaires de nous-mêmes, propriétaires de nos talents, propriétaires de notre travail, et donc il est parfaitement légitime que nous puissions exploiter, en quelque sorte, les fruits de notre travail, de nos talents. Tandis que Rawls considère pour sa part qu'il est totalement illusoire de croire que nous sommes seuls propriétaires de nous-mêmes et que nous n'avons pas besoin d'infrastructures sociales, alors l'éducation évidemment, mais déjà le milieu familial d'appartenance qui nous permettent de faire fructifier nos talents. Donc évidemment, je suis du côté de Rawls de ce point de vue, car il me semblerait illusoire de croire que le mérite relève simplement, on pourrait dire, de la volonté ou de la liberté individuelle.
Maintenant, on a vu la critique libertarienne, je voudrais passer à la critique communautarienne, parce qu'en fait, les deux grandes critiques de Rawls s'organisent de cette manière-là. Alors, c'est Michael Sandel qui a ouvert le banc de la critique dite communautarienne. Dans la mesure où le moi est présenté par Rawls comme dépouillé de tous ses attributs, qu'il est réduit à une sorte de mélange de sujet moral kantien, je dirais, d'une part, on l'a vu, et de calculateur égoïste des intérêts qu'il a à coopérer avec les autres membres de la société, il est, dit Michael Sandel, et cette formule a eu énormément de succès, désencombré. C'est un homme sans qualité, écrit de son côté Alain Boyer, pour résumer cette attaque de Sandel. Et de son côté, Catherine Audard résume la critique de Sandel en disant « un soi essentiellement sans bagage, distinct de ses buts et de ses attributs contingents ». Que penser de la critique de Sandel et des communautariens qui nous disent « Sandel a raté finalement ce qui donne aujourd'hui la politique des identités », Céline Spector.
Alors je crois qu'il faut, vous avez parfaitement raison, revenir sur la critique communautarienne. Alors ceux que l'on nomme communautariens en général, donc c'est Michael Sandel, mais aussi Charles Taylor, donc philosophe québécois, Michael Walzer, les trois grands noms. Alors eux-mêmes ne se revendiquent pas comme communautariens en général, mais c'est une étiquette qu'on leur a attribuée. Et en effet, ils ont un certain nombre de points communs que je pourrais résumer, disons, à partir d'une triple critique de Rawls et du libéralisme politique en général. Donc il y a une critique morale du libéralisme qui consiste à, dénoncer son refus du perfectionnisme. Le libéralisme refuse que la société puisse s'assigner comme fin une conception de la vie bonne, et donc le libéralisme refuse qu'il y ait un modèle d'excellence ou de vertu qui puisse par exemple être diffusé à travers l'éducation. Or, les communautariens affirment que la critique du perfectionnisme, souvent aussi accompagnée d'une critique du paternalisme, est tout simplement dangereuse, car elle ôte tout fondement moral au libéralisme. En un sens, le libéralisme s'en tient à une doctrine individualiste et formaliste, parce que, le libéralisme n'a pas de véritable fondement moral. Il lui faudrait une conception de la vie bonne, il lui faudrait une conception de l'excellence, raison pour laquelle les communautariens affirment le primat du bien, c'est-à-dire d'une conception de la vie bonne, d'une allégeance à des valeurs partagées, sur le juste, là où les libéraux affirment la priorité du juste sur le bien. C'est une des différences fondamentales. Mais il y a aussi un aspect politique et ensuite un aspect anthropologique. L'aspect politique, c'est que la critique communautarienne du libéralisme affirme que, finalement, le libéralisme conduit à l'atomisation, à la destruction des identités, à la destruction des communautés. Il ne prend pas la communauté au sérieux. Vous vous souvenez que Rawls critiquait l'utilitarisme en affirmant que l'utilitarisme ne prend pas l'individualité au sérieux, eh bien en un sens, les communautariens renvoient à Rawls sa critique. Rawls ne prend pas la communauté au sérieux, il ne prend pas au sérieux le fait que nous sommes des individus ancrés dans des communautés d'appartenance, que nous avons des allégeances, que nous appartenons à des milieux sociaux, culturels, historiques, qui nous permettent de nous définir nous-mêmes. Et en un sens, le soi désencombré qu'évoque Michael Sandel dans Le libéralisme et les limites de la justice, c'est un soi abstrait, désincarné, qui finalement serait illusoirement capable de choisir ses fins et les valeurs qui orientent son existence. Or, nous disent les communautariens, cette vision finalement de la subjectivité, et ça c'est la troisième critique, la critique anthropologique, cette vision du self, du moi libéral est totalement irréaliste, totalement illusoire, c'est une fiction. L'individu libéral, c'est un individu qui s'apparente à une sorte de héros capable de créer souverainement ses fins. Il serait mû par un fantasme d'autodétermination, disent les communautariens, comme s'il pouvait se créer ex nihilo lui-même, choisir ses fins et les valeurs qui doivent l'orienter. Or, là encore, les communautariens veulent réancrer, on pourrait dire, l'individu dans sa communauté d'appartenance, dans ses allégeances, et affirmer que finalement il n'y a pas de liberté absolue, qui soit une liberté créatrice. Et de ce point de vue, on retrouve chez Charles Taylor notamment un écho de la critique hegélienne de Kant, cette idée que la liberté abstraite est une liberté vide, et au fond l'idéal d'autonomie que Rawls emprunte à Kant, c'est un idéal qui pour les communautariens est pauvre et même moralement destructeur. La liberté libérale serait une liberté au fond si formelle qu'elle en devient vide, sans objet, qu'elle est incapable de véritablement se donner des fins. Taylor va très loin puisqu'il dit que pour le moi libéral, rien ne vaut, rien ne compte, rien ne mérite le sacrifice, si bien qu'on se trouve avec une individualité finalement vidée de contenu et de sens.
Oui, mais justement, quand on lit un peu Rawls, on a l'impression qu'il n'est pas du tout, il n'est pas entièrement du côté de Kant, de cet individu atomisé qui a les mains tellement pures qu'il n'a pas de main, comme on dit quand on veut le critiquer, avec sa morale d'intentionnalité. On a l'impression qu'il est, Rawls, ni du côté de la Gemeinschaft, ni du côté de la Gesellschaft, je dirais, parce qu'il pense que l'association pure des individus atomisés, ce n'est pas suffisant pour créer société, mais que d'autre côté, la communauté de nos pères, où il y avait une conception commune du bien souverain, n'est plus d'actualité. Parce que la société est simplement diversifiée. Donc, on a du mal à comprendre où se situe exactement Rawls entre ces deux pôles, qui sont ceux de la société par association, purement contractuelle entre des individus autonomes, et puis la société des la communauté des communautariens, où là, il y a des allégeances fortes, où il y a la conception d'un bien commun unificateur, et qui, pour les libéraux, apparaît comme une régression en réalité. Parce que c'était aussi le point de vue, disons, des nationalistes ou des fascistes, qu'on pouvait revenir en arrière sur l'individu. Individualisme libéral et retrouver une communauté unifiée. Où est Rawls exactement entre ces deux pôles? Spector d'abord, puis ensuite. Oui, Céline.
Je crois que vous avez parfaitement raison de souligner qu'il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que Rawls évoque la société comme ce qu'il appelle un système de coopération sociale entre individus libres et égaux. Et il ne présuppose rien pour la théorie de la justice que la rationalité, nous avons des fins et nous déployons des moyens en vue de ces fins, et le sens de la justice, c'est-à-dire une sensibilité morale, disons, à adhérer aux principes de justice une fois que nous les avons choisis. Mais il ne présuppose rien du point de vue de notre adhésion à la communauté. D'un autre côté, vous avez raison de le souligner, Rawls est tout sauf un individualiste au sens où on pourrait l'entendre communément. C'est-à-dire qu'il insiste beaucoup sur le fait que la société juste, la société bien ordonnée, n'est pas un simple modus vivendi où les individus poursuivraient leurs intérêts, où ils auraient simplement des préférences. Et la société bien ordonnée de Rawls se distingue de la société hobbesienne. Il le dit très souvent, que le modèle hobbesien, il le tient à distance parce que c'est ce modèle du modus vivendi simplement entre intérêts concurrents, un modèle qui serait simplement celui d'une coexistence extérieure des libertés. Donc si vous voulez, Rawls, c'est très intéressant, pense que les principes de justice peuvent faire l'objet d'une adhésion forte et former ce bien commun. Et si on fait une analogie, c'est plutôt avec Rousseau qu'il faut la faire. Car pour Rousseau, la liberté et l'égalité sont les deux valeurs substantielles qui, en quelque sorte, constituent le bien commun. Et en un sens, si nous aimons la liberté et l'égalité, eh bien, nous avons quelque chose en commun. Et il serait illusoire de croire que nous sommes simplement des individus atomisés. Donc il y a une part de mauvaise foi dans la critique communautarienne, parce qu'elle ne tient pas compte du fait, en critiquant le procéduralisme rawlsien, elle ne tient pas compte du fait que les principes de justice peuvent faire l'objet d'une véritable adhésion, d'une véritable loyauté, et que la société libérale n'est pas la société libertarienne, justement.
C'est à Bormas, en fait, que vous êtes en train de nous décrire, là. Ben, je vous remercie l'un et l'autre. Je rappelle que c'était le quatrième volet de notre exploration de la pensée de John Rawls. Nous étions donc en compagnie Céline Spector et de Jean-Jacques Serfati. Je rappelle pas vos livres, ils seront sur le site de l'émission dans quelques minutes.